Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et bien comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité, c'est...
Alexandra Dublanche.
Alexandra Dublanche. Alors, ne soyez pas surpris, c'est une élue vice-présidente de la région Île-de-France, mais on va se tutoyer parce qu'Alexandra, nous nous connaissons depuis longtemps.
Tout à fait.
Nous nous fréquentons d'abord au sein du groupement des entreprises des Boucles de la Seine, pour laquelle, en effet, elle intervient très souvent, elle est vraiment souvent à nos côtés. Mais Alexandra, c'est, en plus d'être une élue, c'est aussi une femme très active, c'est aussi une épouse et une mère de famille. Et donc, je me pose toujours la question, mais comment fait-elle pour concilier tous ces rôles et toutes ces vies différentes? Et peut-être que son secret du bonheur, il est là aussi. Alexandra, ton bonheur, c'est quoi aujourd'hui?
Mon bonheur, effectivement, c'est d'arriver, mais je pense comme beaucoup de femmes, notamment, hein, qui travaillent, à concilier tout. Arriver à voir ses enfants, d'autant que les miens sont en bas âge. Hein. J'ai deux petits garçons de 3 et 5 ans. J'ai une activité professionnelle assez intense. Et donc voilà comment on arrive à tout concilier sans être en permanence en culpabilisation, de pas faire assez l'un ou assez l'autre. Ça, c'est pas toujours simple. Et puis d'être quand même présente au niveau de ma famille, sans pas trop charger aussi mon mari, qui en fait beaucoup beaucoup à la maison. Donc voilà, c'est ça le bonheur, c'est réussir un peu cet équilibre, pas simple, mais comme tant d'autres personnes.
Cet équilibre, tu l'as trouvé, tu l'as conquis, tu l'as travaillé. Comment ça s'est passé?
Bah, je pense on apprend en marchant. Hein. On ne sait pas ce que c'est que de devenir maman avant de l'être, et à quel point ça c'est aussi parfois difficile. Et donc je pense que j'ai bien choisi mon mari. Pour commencer, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais et je pense que sans ça, ça serait pas possible. Et donc on arrive à passer des moments de je pense qualitatifs. Les gens sont toujours en plus très interrogatif, notamment quand on est une femme en politique, elle délaisse ses enfants. J'ai pas l'impression de délaisser mes enfants, mais c'est aussi vrai dire non. C'est dire non, ne pas pouvoir être tout le temps à tous les événements municipaux, et je m'en excuse, mais moi le week-end, j'ai besoin aussi de voir mes enfants, ils ont besoin de me voir, donc je ne suis pas tout le temps là. Mais faire des choix, et c'est que ça soit les choix les meilleurs possibles.
Alors des choix, mais pas des renoncements.
Voilà, on essaye, effectivement.
C'est peut-être là le secret, non?
Effectivement, c'est de pas avoir de regrets aussi. Mmh. Mais on en a forcément, hein, on fait des erreurs, on avance, et encore une fois apprendre en marchant, et ne pas non plus chercher toujours la perfection, ce qui, je pense, pour une femme est aussi un peu plus dur.
Tu penses qu'elles sont un peu plus perfectionnistes?
Je pense. En tout cas, je me sens bien visée. Donc.
D'accord. Non, c'est vrai. Alors attention, hein, quand on parle des autres, on parle souvent de soi quand même. Hein. Eh bien, ouais, nous venons de vivre et nous vivons encore, hein, une période qui ne semble pas forcément terminée, où tout a été chamboulé, nos habitudes, à la fois l'économie, notre rythme, et du coup, je t'ai vu aussi, nous t'avons vu aussi, sur tous les fronts, distribuer des masques, on a l'impression que tu as parcouru toutes les villes d'Île-de-France avec tes cartons, etc. C'était assez admirable. Beaucoup de personnes, fait part de cette admiration. Comment on fait là aussi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quel était ton moteur à ce moment-là?
En fait, j'ai pas vraiment, je me suis pas posé la question. Je sais qu'il y avait un besoin, et du coup, avec mes collègues, hein, je suis évidemment pas toute seule. Tous les maires que je salue pour leur dévouement, même ceux qui étaient censés arrêter, qui ont rempilé pour 3 mois en attendant que les conseils municipaux soient installés. Et donc tous ces élus qui sont au quotidien au service de leurs concitoyens se sont mobilisés. Et donc pareil, je sais qu'il y avait ce besoin en masque et ce manque. Et donc, je suis allée partout où il y en avait besoin, et je me suis, je l'ai fait en sentant vraiment qu'il y avait une utilité. Et ça, c'est ce qui me donnait peut-être l'énergie et pour le faire. Donc il y a énormément de difficultés qui vont encore arriver. Et donc le combat n'est certainement pas fini. On a été dans la gestion de la crise sanitaire, et là, c'est plutôt la crise économique et sociale. Donc, on essaye aussi de se réinventer, nous, en tant que collectivité publique, pour essayer de répondre aux besoins des habitants. Et donc, ça peut vouloir dire faire de la distribution alimentaire pour des publics qui n'étaient pas du tout habitués, entre guillemets, à y faire appel, des étudiants qui n'ont plus leur petit job. Et donc, c'est penser à toutes ces nouvelles problématiques et essayer d'y répondre du mieux possible.
Alors, cette émission, c'est une émission sur le bonheur. Ça n'empêche pas de parler aussi des malheurs ou des difficultés, bien sûr, parce que le bonheur, on peut le trouver aussi dans toutes les situations. Et finalement, qu'est-ce que cette situation avec le confinement, cette multiplication, voilà, de nouvelles actions à mettre en place, à imaginer très, très vite, et qu'est-ce que ça t'a appris sur le bonheur, finalement?
Ça m'a appris beaucoup sur le stress, oui. Et la gestion du stress, parce que c'était quand même intense et il fallait être au rendez-vous. Mais c'est aussi retrouver encore plus présent toute l'utilité de ce que je fais au quotidien en tant qu'élu, ce que mes collègues font, c'est-à-dire servir. Et je pense que là, ça a été encore plus plus présent à mon esprit, de me rendre compte de l'utilité concrète qu'on avait au quotidien dans une situation de crise intense. Et donc, c'est forcément source aussi d'apaisement et de se dire, je sais que ce que je fais est utile.
Mmh. Et se rendre utile, donner, ça rend heureux aussi.
Alors, j'ai pas ressenti un bonheur extrême pendant cette période qui était quand même très dure et quand on a vu beaucoup de souffrance, donc je peux pas vraiment parler de bonheur. C'est plutôt de sentir que ce qu'on faisait était attendu et servait à quelque chose. Mais j'ai vu aussi beaucoup de souffrance et donc je ne peux pas dire que c'était la période la plus heureuse de ma vie, loin de là. C'est un peu une question compliquée.
C'est mitigé, ouais, bien sûr.
J'ai trouvé des sources de bonheur, en fait d'utilité, oui. Alors est-ce que ça apporte du bonheur, je ne sais pas, mais c'était pas une grande période joyeuse, non, pas du tout, et ça ne l'est toujours pas parce qu'il y a une augmentation de la souffrance importante.
C'est vrai que se sentir utile, du coup, ça a été quelque chose qui est revenu au premier plan, seulement pour toi, on l'a remarqué aussi pour beaucoup de personnes. Moi, faisant partie d'un club aussi plutôt humaniste, humanitaire, on a senti à quel point c'était important aussi de venir combler ou pallier, en tout cas, ou compléter les actions qui étaient faites par ailleurs et donner, en fin de compte, enfin, toutes les études, y compris les plus récentes sur les neurosciences, démontrent que la générosité, le fait de donner, le fait de prendre ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps, en fait, et de le consacrer à l'autre, eh bien, ça nous fait aller mieux, en fait.
Exactement. Et tu me permets ce qui m'a peut-être apporté du bonheur aussi, c'est justement de voir ces élans de solidarité. Alors, il y a des associations qui le font tout au long de l'année et qui ont encore renforcé leurs actions, mais il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes et d'entreprises qui se sont mis à faire des plexiglas pour des pharmacies, à produire des masques, à donner des masques. Évidemment, des associations qui se sont mobilisées pour aller visiter ou aller servir, appeler les plus démunis, les personnes âgées. Et ça, en fait, ça a réveillé le bon dans notre société, je trouve aussi. Et j'ai une seule chose que j'espère, c'est évidemment que ça dure et que ça persiste après la crise.
Mmh, que le monde d'après ne soit pas le monde d'avant.
Et voilà.
Ouais. Solidarité et rapprochement en même temps, c'est-à-dire le fait d'être obligé d'être éloigné les uns des autres nous a rapprochés aussi.
Exactement, et malgré la distance physique, les gens ont réussi à s'organiser. Alors tous les outils modernes, numériques nous y aident, mais ils se sont trouvés très facilement, des gens qui ne se connaissaient pas. Ils ont trouvé les moyens de se contacter les uns les autres pour mettre en œuvre des actions très concrètes, du portage de médicaments à domicile. Enfin, on a vu plein de choses. Nous, on a eu plein de bénévoles à Sartrouville qui ont été là pour appeler les personnes âgées, pour vérifier qu'elles allaient bien, pour aller porter aussi des outils numériques dans les EHPAD, des dessins d'enfants, à tous les niveaux. Ça a été ça formidable. Et donc, merci de me poser la question, parce que ça m'a apporté du bonheur de voir ça.
Si on compilait, en effet, tout ce qui a été fait de nouveau, toutes les actions inédites qui ont fleuri comme ça dans les esprits des uns et des autres, je pense qu'on serait très, très agréablement surpris.
Je suis persuadée qu'il y a quand même des initiatives qui vont perdurer. Il y a des choses qui reviendront comme avant, c'est sûr. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a des groupes qui se sont créés, qui vont continuer à agir pour les autres, de nouveaux groupes. Il y aura peut-être aussi davantage de bénévoles dans certaines associations. Bon, on en parlait, parfois c'est un peu compliqué de remotiver aussi les gens, donc ce n'est pas tout rose, mais il y aura du bon aussi. Il y aura du bon, et puis on le voit dans d'autres domaines. Moi, je m'occupe d'agriculture à la région. On voit un retour au local, des gens qui, par exemple, dans notre territoire, qui ont découvert leurs producteurs de Montesson. Et donc, moi, il y a une seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à aller acheter là, plutôt que dans des grandes surfaces, par exemple.
Bien sûr. Bon, alors, on peut tout un chacun remarquer ce qui commence à transformer notre vie dans des pratiques quelquefois aussi simples que voilà, d'aller faire ses courses et d'acheter, de choisir entre deux légumes. Voilà, je pense que ça fait partie des choses qui sont positives. Moi, tu sais que moi, je suis un anticotable optimiste. Hein, donc, ce qui m'intéresse, c'est le positif dans les choses. Parce qu'on peut longtemps pleurer sur toutes les situations. Oui. C'est important aussi d'en tirer de tout ce qui a été fait de bon. Tu disais le bon, le meilleur en nous-mêmes. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes d'abord bons et ensuite peut-être l'environnement va venir exacerber d'autres choses en nous. Et cette bonté, on l'a. Et cette bonté, c'est aussi la légèreté. Et la légèreté, c'est aussi la musique. Hein. C'est aussi peut-être le fait de pouvoir repartir simplement sur les plages, profiter du soleil, de l'été. Et peut-être ça fait penser à une musique que tu as choisie et dont on parlera tout à l'heure. Musique maestro. On peut même chanter, hein, si on a envie.
Me lance pas, parce que...
Mais en tout cas, voilà, on se dandine sur nos chaises, vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais en tout cas, on entend, oui. Ça fait du bien.
Oui.
Wouldn't it be nice?
Formidable.
Beach Boys. Pour quelle raison ce titre et pourquoi pas un autre?
Oui, alors c'est un titre qui me donne de la pêche et puis c'est un petit signe à mon mari parce que c'est une chanson qui, voilà, qu'on écoutait beaucoup au début de notre relation il y a bien longtemps maintenant. Et donc voilà, comme je disais, c'est vraiment un pilier dans mon équilibre. Et donc voilà, donc cette chanson. Et puis moi, j'adore la musique. J'ai fait 20 ans de violon dans ma jeune époque. Et donc voilà, je suis toujours admirative de la capacité à créer. Enfin voilà, dès que j'entends une musique, j'aurais voulu être capable de créer comme ça. Et donc, bon, après, voilà, j'ai choisi cette chanson. Voilà, ça aurait pu aussi être une autre, mais celle-là, je trouve qu'elle met pas mal la pêche.
Musicienne, mais tu ne composais pas en fait, tu jouais des morceaux.
Oui, voilà, j'ai commencé très jeune, hein, j'avais 4 ans et après bah, j'ai fini enfin, jusqu'à la fin du conservatoire et puis bon après, j'ai plus trop eu le temps. Donc voilà.
D'accord. Tu n'avais jamais tenté de rejoindre un groupe d'autres musiciens pour
des
faire
orchestres, des
oui.
orchestres, mais pas dans non des groupes non.
Ou orchestre, peu
importe. Oui, enfin des orchestres, oui, oui, avec des mais des musiques existantes, enfin et plutôt du classique en violon. D'accord. C'est un peu plus compliqué de sortir, même si s'il existe aussi d'autres types de musique avec le violon, mais on, au début, on reste quand même dans du bon classique.
D'accord. Études classiques. Parce que le violon, c'est quand même un instrument tellement universel, enfin, qui a touché toutes les modes musicales. Hein, donc,
Alors, qui casse bien les oreilles des parents dans les premières années,
oui,
je pense.
C'est vrai.
c'est pas simple. Je pense que mes parents s'en souviennent. Mais voilà, une fois qu'on maîtrise, ça peut, c'est évidemment magnifique.
Eh bien, voilà la pépite du jour, c'est Alexandra la violoniste. Donc on arrive dans cette deuxième partie, avant de partager un petit conte de sagesse. Et dans cette deuxième partie, peut-être c'est un peu plus de surprise. Et moi j'avais préparé des fois des petites questions que je pose pas d'ailleurs, parce que ça, c'est comme ça me vient, c'est en fonction de ce qu'on m'apporte. Ça ressemble beaucoup un peu à une séance de coaching en fait. Hein. Surtout ne pas avoir de programme, surtout ne pas avoir de désir pour l'autre, mais de laisser venir ce qu'il vient, ce qui vient. Et est-ce qu'il y avait une question que tu aurais aimé que je te pose en disant, tiens, quand je vais aller là-bas, j'aimerais beaucoup qu'il me pose cette question-là.
Alors moi, j'aime bien ton idée de surprise et du coup, c'est assez rafraîchissant par rapport à d'autres types d'interviews auxquelles je suis plus habituée, de pas du tout savoir de quoi on va parler. Ça fait aussi réfléchir, parce que tu m'avais mis un peu des pistes et du coup, c'est assez utile. Donc, je te fais confiance en fait.
Ah, c'est beau la confiance. Alors, moi, les questions que j'aurais aimé te poser, je ne sais pas, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'optimisme. En fait, je trouve que c'est un moteur qui est fabuleux, l'optimisme, et qu'on doit en effet alimenter tous les jours aussi par la façon dont on va interpréter ce qui se passe autour de nous. Et donc, j'ai des petites cartes ici qui sont très sympas et qui sont en fait des cartes qui sont faites par la Ligue des Optimistes de France.
Oh,
et ce qui fait que ça peut alimenter toute conversation, y compris une conversation amicale, une conversation même de couple, en disant, tiens, ce soir, de quoi va-t-on parler? Eh bien, voilà. Et donc ici, tu as des quatre cartes, tu tires au hasard une carte.
Hop.
Et quelle est la question optimiste?
Oh là là, quel est ton petit secret pour lutter contre le pessimisme des autres? Oh là
là. Oui, donc je suppose que tu dois être confronté au quotidien au pessimisme des autres. Alors, voilà.
Je pense que il faut pas. Je vois souvent un espèce de réflexe qui va être de contrer. En fait, de contrer, mais non, ça tout va bien, etc. Je pense qu'il y a une première phase qui est d'écoute. Enfin, moi, je trouve que dans ce que je fais au quotidien, il y a énormément d'écoute. Et ceux qui n'écoutent pas et qui vont directement vouloir faire passer le message, mais si, non, tout va bien, regardez, il y a ci, il y a ça, ça va pas marcher. En fait, les gens aussi, on a tous besoin d'avoir, je pense, une oreille attentive et de se sentir d'abord que l'autre comprenne bien pourquoi on n'est pas de bonne humeur, pourquoi on est pessimiste. Et c'est après qu'on peut ensuite apporter une réponse, parce que ça peut pas être une réponse basique qu'on ressort
standard
à tout le monde. Voilà. Donc, si on n'a pas cette phase d'écoute, on va ressortir des choses, la même chose à tout le monde. Et ça, moi, j'aime pas, et surtout en politique. Donc, je pense que cette phase-là, préalable, elle est hyper importante.
Donc, question intéressante.
Mais je suis preneuse de tout autre conseil.
Alors, moi, tu sais que je ne donne pas de conseils. Hein. En tant que coach, je ne conseille pas. Et en tant que consultant, je ne les donne pas, je les vends. Le pessimisme, c'est intéressant. Pendant longtemps aussi, j'avais cette tendance à essayer de contrer, à dire « mais non, mais regarde », essayer d'imposer à l'autre ma vision optimiste, plutôt positive des choses, jusqu'à ce qu'en effet, je m'intéresse un peu plus précisément à ça, et notamment au lien entre le pessimisme, l'optimisme et le bonheur aussi, et le fait de se sentir bien dans sa vie, de se sentir épanoui. Et en comprenant aussi que le pessimisme est naturel. Donc c'est important cette écoute, d'entendre que l'autre, il agit ou il réagit d'une façon qui est extrêmement naturelle. Quand on est pessimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir le pire dans une situation. Ça veut dire qu'on va aussi s'attendre au pire. Ça veut dire qu'on va aussi se préparer au pire. Et ça, c'est une fonction qui est naturelle. Et c'est ce qui nous a permis de survivre pendant si longtemps.
C'est vrai.
En s'attendant au pire. Et donc de comprendre, en effet, que même si on n'approuve pas la façon de faire, mais de comprendre que c'est bien naturel chez l'autre, et de l'accueillir, de l'intégrer, de le prendre en soi pour pourquoi pas le renvoyer, mais d'une façon négative, en disant, ben oui, tu vois, quand tu me dis oui, mais c'est une façon de me dire non, et peut-être que, Et peut-être que c'est autrement. Et si on regarde les choses de cette façon-là, et si je me pose à ta place, en effet, je vais voir les comme ça, mais peut-être qu'on peut apporter un regard différent. Et du coup, offrir à l'autre, non pas contrer l'autre, offrir une contre-attaque, mais aller dans son sens pour essayer de le comprendre et peut-être le faire changer d'avis, mais peut-être pas.
Exactement.
C'est d'accepter que l'autre va justement ne pas avoir d'avis. Je suppose qu'en politique, les journalistes vont s'amuser à mettre en face des personnes, voilà, parce que comme ça, il faut que ça clash et ça fait plus d'audience. Donc tu sais de toute manière que tu ne vas pas faire changer d'avis la personne qui est en face. Elle est encartée dans un parti qui est tellement à l'opposé du tien que de toute manière, la question c'est pas de le faire changer d'avis, mais c'est d'arriver à sortir par le haut de cette conversation et finalement d'arriver tout en écoutant l'autre, ce qui est très difficile, je suppose, en politique, tout en écoutant l'autre, d'arriver quand même à dire voilà le message que j'ai envie de faire passer par rapport à ça.
Exact, et je pense que aussi en politique, la capacité à prendre un peu de recul, à se sortir en fait de effectivement ces débats un peu stériles et voir ça de l'extérieur. En fait, essayer de comprendre pourquoi la personne qui est en face de moi, elle me dit ça aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'à la fin je serai d'accord avec elle, mais d'où ça vient ? Pourquoi elle me dit ça ? C'est parce qu'il y a une histoire forcément derrière. Voilà, on a tous des opinions qui sont basées sur une histoire personnelle, notamment. Et puis, ça peut remonter loin. Et donc, et je trouve qu'une fois qu'on essaye un peu mieux de comprendre ça, on peut mieux dialoguer. Mais bon, c'est pas simple, hein, au quotidien, et on peut aussi s'en plafonner facilement.
C'est clair, mais en tout cas, voilà. Donc, considérer que l'optimisme, c'est un plus, en fait, qui va nous permettre justement d'aller plus loin. Et une fois qu'on a compris, en effet, qu'on s'est préparé au pire, bien, on peut se préparer au meilleur aussi, tout simplement.
Voilà. Exactement.
Alors, les optimistes vivent plus longtemps en meilleure santé que les pessimistes. Donc, ça devrait aider certains, en effet, à être un peu plus optimistes.
Mais comme tu le dis, et je pense que dans ce que moi je fais au quotidien, dans l'action publique, gouverner, c'est prévoir. Et donc, effectivement, anticiper parfois aussi le pire, ça permet de mieux gérer les affaires publiques. Et on l'a vu dans cette crise, anticiper... prévoir, donc aussi anticiper le pire, ça permet d'être prêt le moment où le choc arrive.
Absolument.
Enfin, en tout cas, mieux que si on n'avait pas prévu.
Je forme aussi des entreprises sur la communication de crise, notamment. Et ça veut dire aussi, c'est quand tout va bien, qu'il faut mettre en place une cellule de crise.
Ouais, voilà.
Donc, faut pas être optimiste, ça veut pas dire se voiler la face. Ça veut dire simplement se préparer à toutes les options possibles, y compris les meilleures. Et donc, quand on monte une cellule de crise et quand la crise arrive, eh bien, on est préparé, tandis que les autres sont en train de découvrir au quotidien ce qu'il faut faire.
Et
ils sont dans la réaction.
Ouais, exactement. Et on le gère avec beaucoup plus de sérénité et peut-être, du coup, plus d'efficacité.
Absolument. Absolument. Donc, voilà, j'avais coutume, en jouant sur les mots, de dire qu'une entreprise, c'est une entre-crise, en fait. Et qu'on doit toujours être prêt à la prochaine.
C'est
mais
vrai.
On ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin du museau. Eh bien, je regarde le temps. Non, nous avons encore le temps de continuer. Alors tiens, mais du coup, je vais te proposer autre chose.
Oh.
Ça, c'est pas vraiment un jeu, mais j'ai compilé ce que j'appelle mes cartes du bonheur avec des mots du bonheur. Et là aussi, ce sont des mots qui peuvent évoquer quelque chose autour de cette notion de bonheur. Je pensais en faire une cinquantaine, mais finalement, tu vois, il y en a beaucoup. Et donc là, je te laisse choisir aussi un mot, une carte, et qu'est-ce que ça va nous dire ?
Oh là là, ça me parle. Dépassement de soi.
Voilà, quel lien vois-tu entre le dépassement de soi et le bonheur ?
Ben, c'est lié un peu au pessimisme, je trouve. C'est de se dire, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, à trouver l'énergie, alors que ce soit dans l'autre, que ce soit dans des ressources personnelles, pour finalement y arriver. Moi, je le vois comme ça. Et donc, se dépasser, ça veut dire qu'à la base, on pensait ne pas arriver à ce stade.
Ouais.
Et donc ça, forcément, c'est assez réjouissant aussi en termes de confiance personnelle et de se donner de l'énergie pour d'autres challenges comme celui-ci. Et ça, moi, je le vois beaucoup avec pas mal de jeunes, peut-être issus. Bah, ici, on est dans un endroit aussi qui travaille beaucoup là-dessus. Je salue les équipes, voilà, du petit théâtre où voilà, c'est montré à des jeunes. Par exemple, tout à l'heure, je vais à Romain Rolland pour la finale du concours de l'éloquence.
Ah.
Et je pense qu'il y a des jeunes qui se disent jamais je ferai un concours de l'éloquence. Et là, ils l'ont fait. Il y a des chefs d'entreprise. J'écoutais les conclusions du jury qui sont impressionnés. Et ça, ça te donne une confiance pour l'avenir. Et je pense qu'ils s'en souviendront longtemps d'avoir participé à ce concours de l'éloquence. Des jeunes qui, pendant 3 mois, n'ont pas été vus par leurs profs en visio, qui avaient complètement décroché, mais qui ont fait ce concours d'éloquence. Et ça, je trouve ça fantastique. Et je pense que c'est important, c'est extrêmement important. Le dépassement ça peut être aussi dans le sport, évidemment, dans la musique. Mmh. Donc, non, c'est ouais, effectivement une grande source de bonheur, je pense.
Et ça part presque d'un paradoxe, presque une ambiguïté. Le dépassement de soi, ça veut dire à la fois, je me connais, donc je connais mes limites, et en même temps, je ne me connais pas encore. Et j'ai besoin d'aller voir où sont mes limites et peut-être de découvrir quelque chose. Si on devait aussi tirer du positif aussi de cette période très étrange qu'on vient de vivre, c'est que certains se sont découverts des capacités, se sont découverts des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées auparavant. Et je peux même parler de moi à ce moment-là. Parce que j'ai le bonheur aujourd'hui avec toi de retrouver le studio de Radio Axe. Mais voilà, ça fait 3 mois que je n'étais pas entré ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enregistrais mes émissions chez moi, avec mon smartphone, avec Zoom, etc. Et puis, à un moment donné, c'était difficile de m'aider pour les mixer, pour les mettre en musique, etc. Parce que c'est un travail fabuleux que fait Nordine de sublimer nos échanges pour y mettre derrière tout un environnement. Eh bien, ça, j'ai appris à le faire tout seul. Alors, ça veut pas dire que je suis pas heureux de le faire aujourd'hui et de laisser Nordine en commande, mais ça veut dire que je ne savais pas que j'en étais capable. Et pour moi, c'est ça aussi le dépassement de soi. J'en ai un petit exemple personnel. Je me dis, ça va parler à tout le monde. Tout le monde a fait quelque chose d'inimaginable auparavant. Et c'est ça aussi le dépassement de soi. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être eu au fond de nous une musique, un mot qui nous a aidé à aller un peu plus loin. Et quelquefois, ça vient de l'extérieur. Et quelquefois, c'est une personne qui va vous dire ce que j'appelle les mots magiques. Et quand un jeune me dit, je n'y arrive pas, je lui dis, attends, tu n'y arrives pas encore.
Ouais.
Et ce encore change tout.
Complètement.
Comme quand quelqu'un te dit est-ce que ça va? Bon, tu vas avoir une réponse. Mais tu dis comment ça va vraiment? Et là, tu as une autre réponse. Donc, ça veut dire que dès qu'on porte de l'attention et de l'optimisme et qu'on amène la personne à aller vers le dépassement de soi, on découvre des champs de développement qui sont énormes.
Tout à fait.
Et ça, c'est très, très optimiste et ça fait partie du bonheur. Et je vois que nous arrivons doucement vers la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Je vais te garder encore le temps du conte, parce que peut-être tu pourras nous dire aussi, donner ton avis sur ce conte. Donc c'est le conte de la semaine. Le conte de la semaine s'intitule La colombe et les flocons. Alors, c'est pas de saison, puisque nous sommes en été. Mais on peut s'imaginer, en effet. Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? Demanda la mésange charbonnière à la colombe. Oh, rien d'autre que rien, fut la réponse. Et la mésange raconta alors à la colombe une histoire. J'étais sur la branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, non. Juste comme un rêve, doucement, sans violence. Oh, comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952.
Quelle précision.
Lorsque le 3 751 953e tomba sur la branche, rien d'autre que rien, comme tu l'as dit. Celle-ci cassa. Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain Noé, réfléchit un moment et se dit finalement « Peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule et que le monde vive en paix. »
Allez donc. Alors, on va pas avoir la même réaction. Parce que moi, je l'interprétais plus comme des petits soucis qui s'accumulent et la branche qui casse. Mais je vois que la fin du conte est plutôt, à l'inverse, très optimiste à ton image, Jean-Marie. Donc, je pense que tu vas m'en faire une interprétation tout autre.
Je pense que c'est la colombe qui en a fait son interprétation. Donc, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs regards, en effet. Ça peut être les soucis qui s'accumulent, ça peut être aussi qu'il ne faut pas grand-chose à un moment donné pour que tout bascule. Et c'est ça, c'est aussi de se sentir chacun acteur aussi, de ne pas laisser les autres agir à notre place, de ne pas de penser que oui, puisque la majorité a déjà décidé, non, je suis moi aussi, je pense que je peux aussi intervenir, j'ai ma voix, j'ai ma place.
Et, alors, petite
et c'est
touche...
peut-être moi qui fais changer les choses, pardon.
Pardon, excuse-moi. Et petite touche peut-être optimiste aussi, c'est que c'est la mésange qui est sur la branche. Enfin, en tout cas, elle ne tombe pas avec la branche, elle s'envole. Donc, elle laisse aussi les soucis derrière, si on voyait ça comme des petits soucis qui s'accumulaient. Parce que moi, j'avais vu à la base, mais elle ne tombe pas avec et elle s'en défait, en fait. Donc, c'est là où il y a peut-être la touche d'optimisme.
Oui, quelquefois, nous oublions que nous avons des ailes. Eh bien, c'était Jean-Marie Marcos avec Alexandra Dublanche pour Invitation au bonheur. Donc, je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Vous allez découvrir un titre que j'adore de Stevie Wonder. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe, bien sûr. Et d'ici là, avec moi, soyez heureux.
Et juste pour dire merci à Jean-Marie et à Nourdine qui est en backstage, mais qui est indispensable à cette émission. Et merci à tous les deux pour ce bon moment.
Merci à toi. Yeah.